Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les Galeries Nationales du Grand Palais accueillent en ce moment une grande exposition sur Velázquez. Franck Ferrand l'a visité en bonne compagnie. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. C'est avec Serge Lega, évidemment, que j'ai visité cette exposition du Grand Palais. Je dis évidemment car un de nos auditeurs nous dit qu'on devrait installer un hamac dans ce studio pour Serge, tellement il est souvent invité. Mais en même temps, s'il nous fait rêver et s'il est le meilleur dès qu'il est question de peinture et d'art, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Les commissaires ont dû se passer pour cette exposition de la présence de la Guadeloupe de Séville, des fileuses, des ménines évidemment, de la reddition de Bréda, mais comme pour compenser, il nous présente abondamment et dans des mises en perspective et en regard souvent intéressantes les maîtres de Velázquez et ses disciples. Rassurez-vous, bien des chefs-d'œuvre ont néanmoins fait le voyage, comme la forge de Vulcain, l'admirable Vénus au miroir ou le portrait du pape Innocent X dont on ne se lasse jamais. Velázquez, c'est, je le disais tout à l'heure à Wendy, le maître des maîtres, c'est le génie de la peinture. Nous lui avions consacré une heure il y a 2 ans, on ne s'en lasse pas et l'occasion était trop belle.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez aux questions d'Elisabeth sur des questions de vocabulaire, notamment l'origine de l'expression « droit dans ses bottes ».
Oui, c'est nous ça, « droit dans nos bottes ». Et c'est le cas des cavaliers de Velázquez, tellement glorieux sur leur monture de moire et d'écume. Attention, Diego, nous voici.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La belle exposition du Grand Palais est un peu un tour de force car, comme je vous le disais en préambule, les grands chefs-d'œuvre de Velázquez, les lances, le grand portrait équestre de Philippe IV, etc. ne sont pas là et pour cause. Le musée madrilène du Prado ne pouvait pas se séparer de ses plus célèbres toiles, il n'en a d'ailleurs pas le droit. Cependant, ces grands absents ont laissé place à des œuvres méconnues du génie de la peinture espagnole, à certaines toiles attribuées, qui ont peut-être été à une époque attribué un peu vite, mais c'est intéressant de voir justement ce que les experts ont pu, à travers les siècles, attribuer à Velázquez et souvent désattribuer. Et puis, place aussi aux productions contemporaines du maître, parmi lesquelles des tableaux de celui qui a été son inspirateur, Pacheco, on va y revenir, et puis d'autres, des tableaux de ses élèves, etc., de toute sa famille, de toute sa lignée, si vous voulez. On s'y attarde notamment sur des œuvres de jeunesse. Je vous avoue que ce sont les salles qui m'ont le plus intéressé en ce qui me concerne, car on parle relativement peu de la jeunesse sévillane de Velázquez. Alors c'est vrai que je rentrais tout juste de Séville, donc j'étais dans l'ambiance, mais c'est très intéressant de voir toutes ces toiles de formation en quelque sorte, celles des années 1615-1620. Alors certes, Édimbourg n'a pas prêté la vieille femme faisant frire des œufs au réalisme presque insoutenable. Certes, Londres a gardé la Guadeloupe de Séville, je vous le disais, en français le porteur d'eau, avec au premier plan, vous savez, cette fameuse cruche dont la panse en terre cuite accroche des gouttes de condensation, un tour de force inouï dans le traitement des matières, mais pas plus impensable à tout prendre que le verre cristallin si fin que tiennent le vieil homme et le page et dont on a l'impression qu'il va se fêler d'un instant à l'autre. Tout ça est extraordinaire. En tout cas, la forge de Vulcain est là, avec ses nus très réalistes qui appartiennent aux collections du Prado, comme la plupart des portraits royaux en pied ou à cheval. Elle est extraordinaire, cette forge de Vulcain. Les figures sont non pas... Alors c'est vrai qu'on parle d'un sujet mythologique. Hein. Nous avons Apollon qui vient en quelque sorte annoncer à Héphaïstos qu'il est cocu, disons les choses comme elles sont. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression d'être en Espagne au XVIIe siècle et non pas sur l'Olympe. On est vraiment en présence de personnages qui ont l'air incroyablement réels, avec des études d'anatomie fabuleuses et avec surtout des physionomies, des regards, un jeu croisé de regards, une expressivité de tout ça qui laisse tout simplement pantois. Alors, ça change un peu de l'image qu'on peut se faire parfois de Velázquez, de toutes ces infantes corsetées, rigides, dans leur vertu gadin, qui tiennent fermement la simèse. Et elles ne sont pas toujours si habillées que ça, finalement, les modèles de Velázquez, puisque l'on peut voir en ce moment au Grand Palais la célébrissime Vénus au miroir. À elle seule, elle mérite le détour et le voyage. Elle est venue de la National Gallery de Londres. Alors, vous avez peut-être la toile à l'esprit, en tout cas, vous l'avez forcément vue un jour ou l'autre. Le visage de la jeune femme n'est visible que dans le miroir que lui tend un angelot, car elle préfère, ou disons le peintre a préféré, nous présenter sa sensuelle, son étourdissante chute de rein. Voilà une œuvre incroyablement érotique, tout à fait à part dans la production, par ailleurs tellement comme il faut, de Velázquez. Alors, Serge me disait pendant la visite qu'en vérité, on pense que Velázquez a peint bien d'autres nus, simplement on ne les connaît pas. Alors, ont-ils disparu ou se cachent-ils actuellement au-dessus de votre cheminée sans que vous le sachiez? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est très probable que cette Vénus n'ait pas été un unicône, n'ait pas été une exception dans l'œuvre de Velázquez. Elle est tellement vraie, elle aussi. Elle n'obéit pas aux canons de la beauté de l'époque, elle obéit à des canons tellement universels qu'elle est érotique aujourd'hui encore et que l'on peut remarquer une étincelle un peu égrillarde dans le regard de certains spectateurs. Mais l'une des toiles les plus fascinantes de cette exposition, c'est sans aucun doute le grand portrait du pape Innocent X, exposé à Rome, à la galerie Doria Pamphili. Cette toile est extraordinaire. Alors nous avons eu beaucoup de chance pendant la visite, puisque elle était en train de subir son petit examen. Vous savez qu'il y a des spécialistes qui, tous les jours, dans les grandes expositions, prennent la température, si je puis dire, de la toile, l'inspectent de très près, vérifient qu'elle se comporte bien, pour des raisons d'assurance, etc. C'est le moindre des égards que l'on doit au prêteur. Et en l'occurrence, son examen, eh bien, la toile l'a fait devant nous. C'était assez étonnant. Elle a été peinte en août 1650, cette toile. Et l'artiste, à la maturité, en a profité pour imaginer les plus audacieux des camailleux. Une juxtaposition d'un côté d'un camailleux de rouge et de rose et de carmin et de tout ce que vous voulez. Tout ça pour le camail de velours, le bonnet qu'on appelle le camoro, pour le rideau du fond, etc. Et puis, un camailleux de blanc presque plus extraordinaire encore pour le rochet de dentelle. Vous imaginez la maîtrise qu'il faut pour que l'exercice ne tourne pas au désastre. Et je ne parle pas de la finesse du portrait lui-même. Le pape avec ce regard qui est tout sauf doux, entre parenthèses, hein, qui est plus pontifical que vraiment saint, si je puis dire. Ce pape, vous savez qu'en découvrant l'œuvre finie, Innocent X se serait exclamé « Troppo vero », c'est trop vrai. Et c'est vrai qu'elle est intensément vraie, cette analyse psychologique du souverain pontife. Juste au dos de la cimaise sur laquelle est exposée la toile en ce moment au Grand Palais, vous avez un autre portrait d'Innocent X, très beau portrait du reste, tout à fait classique, et qui, s'il était présenté seul, sans doute mériterait des éloges et des applaudissements, mais qui là, évidemment, par comparaison, a l'air d'une fadeur, d'un banal, si je puis dire, absolument incroyable. Troppo vero, telle est bien l'exclamation qui vient spontanément aux lèvres devant de telles prouesses picturales, trop vraies. Et pourtant, si vous approchez de la toile, vous verrez que rien ici n'est posé, rien n'est fini, rien n'est léché. Au contraire, avec une virtuosité, avec une modernité de regard proprement stupéfiante, du bout de ses pinceaux qu'on disait très longs et qui lui permettaient de se tenir le plus loin possible du chevalet, le sévillant et castillant a brossé son sujet à grands traits, presque impressionniste, à la diable, au déboté. Il a bien fait, puisque vous voyez, nous en parlons deux fois en moins de deux ans.
De Bartolomé des Selma. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le peintre Diego Velázquez.
Alors, ce Diego Velázquez, son vrai nom, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, On appelle Velázquez en français. Alors l'accent en français change de voyelle, il passe du A espagnol au E français. Il était né juste au tournant du siècle, hein, au tout début du 10, enfin plus exactement à la toute fin du 16e siècle, en 1599. Et il naît donc à Séville, en Andalousie, dans une de ces nombreuses familles de petites noblesses bien anciennes et bien ancrées qui hantent les ruelles de Séville, la ville à l'époque la plus riche d'Espagne. Dites-vous que Séville, c'est la porte des Indes, c'est-à-dire la porte pour partir vers le Nouveau Monde, mais surtout pour y revenir avec des galions et avec des caravelles et tout ce que vous voulez, remplis d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses. Donc c'est un moyen d'enrichissement considérable. Et quand vous vous promenez encore aujourd'hui à Séville, vous verrez que la richesse inouïe de cette époque a laissé des vestiges un peu comme une trace d'or, comme une poussière d'or sur cette ville où la moindre fenêtre est entièrement ornementée, où le moindre jardin relève de l'Éden, où la moindre placette paraît avoir été dessinée par un maître. Et c'est d'ailleurs souvent le cas. Cette ville tellement riche et tellement artistique, elle a accumulé les écoles artistiques, bien entendu. Et on peut imaginer le tout petit Diego se promenant au milieu de cette saturation de beaux-arts et qui a infusé, si je puis dire, cet enseignement de Séville. Et dès l'enfance, il va manifester un don tout à fait incroyable, tellement incroyable que, en dépit des origines un peu rigides de la famille, on va accepter qu'il entre en apprentissage dans l'atelier de Francisco Herrera le Vieux, dans un premier temps. Alors, il n'entre pas chez n'importe qui. On est dans des ateliers, tout ce qu'il y a de plus présentable, destinés essentiellement à l'art religieux. Vous me direz, à Séville, les trois quarts des commanditaires sont des congrégations religieuses et des ecclésiastiques, donc on ne se pose pas tellement la question. Assez vite, le jeune Diego va entrer dans un autre atelier, celui de Francisco Pacheco. Ça, c'est fondamental, parce que c'est là qu'il va vraiment faire ses armes, disons. Il passera six longues années chez Pacheco. Vous imaginez ce que c'est que l'apprentissage chez un maître comme celui-là, chaque jour quasiment. Parfois deux fois par jour, vous apprenez un secret de l'art, un secret de fabrication. L'enseignement y est d'une densité, y est d'une force extraordinaire. Et bien là, il va rester pendant 6 ans. Autant dire qu'il sort garni d'un savoir extraordinaire, ce jeune Velázquez. Et il restera fidèle à son maître, fidèle à Pacheco. On en dira un mot tout à l'heure. Il est en 1617 membre de la Corporation des peintres de Séville, ce qui ne va pas de soi parce qu'on n'y entrait pas si facilement. Et dès l'année suivante, il va épouser qui ? Eh bien, Juana, qui n'est autre que la fille de Pacheco. Donc on reste en famille d'une certaine manière. Et c'est vous dire l'estime que le maître devait avoir pour son disciple lorsqu'il lui donne sa propre fille en mariage, vous imaginez bien. Deux petites filles vont naître de cette union, Francisca en 1619 et Ignacia en 1625, 21 pardon, dès 1621, donc dès le début de l'union. Le père doit travailler, évidemment, pour nourrir sa petite famille. Alors, il fait essentiellement, à l'époque, des natures mortes, ce qu'on a eu tendance à oublier. Il y en a dans l'exposition du Grand Palais. Elles sont intéressantes. Elles ont un petit côté peut-être un peu trop dense, un peu trop sculptural, si l'on peut dire. Mais le réalisme du jeune Diego est une chose extraordinaire. Il a la passion du réel. Il veut faire sortir les objets de la toile avec une densité, avec un relief et une matité assez stupéfiante. Tout ça, souvent plongé dans une forme de clair-obscur qui n'est pas sans rappeler un certain Caravage, même si, et ce sera l'une des questions que je poserai tout à l'heure à Serge Lega, même si la question de l'influence de Caravage sur les jeunes années de Diego Velázquez est aujourd'hui un des grands sujets de débat en histoire de l'art. Alors, quand je parle de Caravage, c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes de genre chez Velázquez, 2-3 personnages qui sont souvent des modèles pris dans sa famille ou pris dans la rue, qu'il peint tels qu'ils sont, sans les enjoliver, avec cette espèce de réalisme un peu obscur que l'autre maître, celui de l'autre côté de la Méditerranée, avait porté, vous savez, va porter plus exactement à des sommets. Des sujets souvent religieux pour la suite, je vous l'ai dit, et en 1622, eh bien, l'appel de la royauté, l'appel de la cour est trop fort. L'appel du ciel peut-être aussi. Vous savez que Diego Velázquez disait « de Madrid el ciel », c'est-à-dire « de Madrid, ce que je retiendrai en quelque sorte, c'est le ciel, c'est la splendeur de ces cieux de Castille, tellement moins bleus et tellement plus intéressants que ceux d'Andalousie, évidemment ». Il arrive donc à Madrid. Il faut vous dire que son beau-père Pacheco a quelques appuis à Madrid. Ça aide, hein, donc, parce qu'on ne se promène pas comme ça à l'époque. On n'est pas mendiant ni vagabond, ou plus exactement, on l'est facilement. Donc, il faut arriver avec des lettres de créance, avec des recommandations. Il va bientôt pouvoir entrer dans les palais royaux et aller visiter les collections royales de peinture où foisonne. On est chez les Habsbourg. Hein, vous avez là des Titiens, des Tintorets, des Véronèses en quantité. Dès 1623, l'homme fort du régime à l'époque, le Richelieu espagnol, si je puis dire, celui qui est le premier ministre du jeune roi Philippe IV, le duc d'Olivares, va demander à ce peintre dont il a apprécié justement le réalisme et la vigueur, il lui demande de peindre le roi. Le portrait s'achève en 1623 et c'est un événement. Ça, c'est quand même, vous savez, vous connaissez la formule de Corneille à peu près à la même époque. Hein, mes pareils à deux fois ne se font pas connaître et pour leur coup d'essai veulent des coups de maître. Eh bien là, c'est un coup de maître que va réussir Velázquez. La cour entière applaudit au portrait de 1623 et sur le champ, Diego est nommé peintre du roi. Il est désormais pensionné. Alors, il lui faut s'installer à Madrid, hein, c'en est fini de Séville. Assez vite, il sera doté d'un bénéfice ecclésiastique aux Canaries. Important, hein, c'est 300 ducats d'or par an, c'est beaucoup d'argent. Il devient très vite assez riche et c'est fini l'époque où il fallait faire des petites natures mortes pour nourrir la famille. En 1628, il est carrément peintre chambre, c'est-à-dire qu'il a le statut de gentilhomme de la chambre du roi. C'est la charge la plus élevée qu'on puisse donner à un peintre de cour. Vous vous rendez compte, en 5 ans de temps, le chemin qu'il a parcouru. Et alors là, c'est l'époque où il va multiplier les grands portraits de la famille royale. En veux-tu, en voilà. Et le roi et la reine et les enfants et les infantes, c'est portrait sur portrait, avec tout de même la liberté de travailler pour des particuliers et la possibilité de rencontrer d'autres grands peintres qui en même temps sont des ambassadeurs. Je pense évidemment à Pierre-Paul Rubens, que Velázquez va rencontrer, avec qui il s'entend très bien. Et il semblerait que ce soit Rubens qui lui ait conseillé de faire le voyage d'Italie pour parachever une formation qui n'avait peut-être même pas besoin de cela.
Au cœur de l'histoire, votre émission. Vous n'hésitez pas à réagir, chers auditeurs. Nous envoyez vos messages par la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. Vous restez avec nous. Franck Ferrand, vous continuerez de nous parler de la vie et de l'œuvre du peintre Diego Velázquez sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire du plus célèbre des peintres de l'âge d'or espagnol, Franck Ferrand, vous nous parlez de Diego Velázquez.
Et j'ai sous les yeux, là, je feuillette le très beau supplément du Figaro, le Figaro hors série sur Velázquez, sous-titré intelligemment « Le Grand d'Espagne », parce que c'est vrai que c'est ça à tout point de vue. Velázquez, c'est le Grand d'Espagne, c'est presque la grandeur à lui tout seul, du reste. Vous savez, il disait « Je préfère être le premier des rustiques que le deuxième des délicats ». Et c'est vrai qu'il y a chez lui une patte, un brin rustique au départ, hein, lorsqu'il arrive de Séville. Or, ça c'est formidable, parce que au contact, au feu de la cour de Madrid et de l'Escurial, cette patte-là va tout de suite basculer dans la grande noblesse. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais connu la bourgeoisie, d'une certaine manière, Velázquez. Il est passé de la rusticité des arrière-cours de Séville à la splendeur brutalement hiératique de la cour d'Espagne. Et tout ça, d'un seul coup, avec une fulgurance, avec une aisance extraordinaire. Et je regarde cette merveilleuse crucifixion, hein, vous avez le Christ qui vraiment là est en train de mourir sur la croix. C'est extraordinaire ce tableau d'une sobriété, d'une splendeur, une composition d'une rectitude inouïe de Velázquez. Et je ne peux manquer à cette occasion de citer le bel ouvrage que Thierry Lenz, grand spécialiste de Napoléon et de l'Empire par ailleurs, mais qui là s'est intéressé à autre chose et nous a entrouvert les portes de son jardin secret pour écrire un livre qui s'appelle Une passion, sous-titré Promenade autour de la crucifixion de Velázquez, et qui est une déclaration d'amour au peintre et à son œuvre. Alors, j'avais laissé, pardon, parce que je me laisse aller là, vous savez, c'est la passion pour le coup. Je vous parlais de ce voyage, premier voyage de Velázquez en Italie. On est en 1629. Le roi lui donne quand même 480 ducats d'or pour ses frais de voyage. Vous voyez qu'il est quand même plutôt bien vu. Il va avoir 2 ans entiers. Vous imaginez ce que ça a dû être pour lui. Il est reçu, hein, évidemment. Alors là, il est carrément l'envoyé du roi d'Espagne. Donc il est reçu dans toutes les grandes maisons, dans toutes les grandes collections. On lui montre ce qu'il y a de mieux. Et il se gave de Tintoret, de Giorgione, du Guerchin, de Michel-Ange et de Raphaël. On le verra visiter également, bien sûr, la Villa Médicis. Et du reste, il va nous livrer des jardins de la Villa Médicis, des esquisses, hein, des espèces de portraits, de tableaux absolument divins, d'une manière déjà quasi impressionniste. Je faisais remarquer d'ailleurs à Serge Le Gall l'autre jour, et il avait l'air à peu près d'accord avec moi, ou alors c'est qu'il ne voulait pas me vexer, mais qu'il y avait dans certaines des frondaisons de Velázquez déjà presque quelque chose du Corot de Mortefontaine, hein, quelque chose d'extrêmement délicat et de pré-impressionniste, comme ça, de tout à fait brossé, si je puis dire. Alors, c'est à Naples, sur le chemin du retour, que Velázquez va rencontrer José de Ribera, nouvelle grande amitié. C'est intéressant parce qu'on nous le présente souvent comme un être un peu fruste, Velázquez, un peu ronchon, comme ça, un ours. En fait, il a eu des amitiés fortes avec Rubens, avec Ribera, avec d'autres encore. Et quand il rentre, il est surintendant des travaux royaux. C'est là qu'il va peindre, alors là, une pièce qui est la plus décorative de toutes celles qu'il aura pu produire. C'est ce qu'on appelle, qu'on surnomme l'élance, hein, la reddition de Breda, qui fait directement écho à l'actualité de l'époque, avec cette forêt de lances dans les lointains. C'est un tableau éblouissant. Il accompagne de plus en plus le roi dans ses déplacements. Il va quand même effectuer en 49, 50, début 51, un deuxième voyage en Italie. C'est là notamment qu'il peint le pape Innocent X. C'est vous dire s'il est devenu une personnalité, bien entendu. En fait, la raison d'être de ce deuxième voyage, c'est d'acquérir des tableaux et des statues pour le compte de la couronne d'Espagne. C'est ainsi que procédaient les grands et les princes à l'époque. Ils envoyaient de bons artistes, des yeux, si je puis dire, qui achetaient pour eux dans diverses collections pour nourrir la leur. Donc il acquiert des chefs-d'œuvre pour le roi d'Espagne et à peine rentré, il est nommé aposentador mayor de Palacio. Donc là, il est, si vous voulez, grand chambellan, il est maréchal de la cour. Hein. C'est un personnage très important. On se dit là, il va définitivement abandonner la peinture maintenant qu'il a des responsabilités politiques, des responsabilités auliques importantes. Pas du tout. Non seulement il n'abandonne pas la peinture, mais c'est à ce moment-là qu'il va produire les chefs-d'œuvre absolus. Alors là, je ne sais plus quel superlatif employer, parce que il y a les Ménines, que j'ai eu l'occasion de vous décrire il y a 2 ans, hein, ce tableau complètement vertigineux, avec ses effets de perspective inversée, de tableau dans le tableau, de mise en abîme, de regard. C'est tout à fait spectaculaire, c'est le grand tableau baroque par essence. Et puis, les fileuses, alors on parlait d'impressionnisme tout à l'heure, mais là c'est presque une forme d'impré-expressionnisme. Il y a une fulgurance, une espèce d'inspiration suprême dans cette toile, qui est en fait une sorte de référence pour tous les peintres, quel que soit leur genre et quelle que sera plus tard leur affiliation. Velázquez est considéré de son vivant comme le plus grand des peintres, vous imaginez. On n'a pas attendu, c'est pas du tout un artiste maudit, vous l'aurez compris. Il est anobli en 1659 et en 1660, c'est à lui qu'on confie le soin d'organiser toute la réception pour le roi de France, puisqu'on va marier l'infante, la petite infante Marie-Thérèse, avec ce grand roi Louis XIV, hein, qui va devenir son mari. La rencontre va avoir lieu sur l'abbaye d'Ossoa, c'est toute l'histoire de l'île des Faisans. Ensuite, on ira se marier, bien sûr, à Saint-Jean-de-Luz, vous connaissez tout ça. Mais c'est Velázquez lui-même qui décore le pavillon, qui organise les costumes de la cour, qui organise tout le cérémonial. Enfin, c'est un travail acharné. Il dirige des équipes de dizaines d'artistes. Il s'épuise dans cette affaire. Il prend froid. Il est au bout du rouleau, si je puis dire. Et il en tombe malade, finalement. Il mourra ainsi le 6 août 1669. Pardon, j'ai commis une erreur, puisque, évidemment, Velázquez ne meurt pas. Bonjour Serge Legas.
Bonjour Franck.
On ne se lasse pas de parler de Velázquez, il y a encore tant et tant à dire. Nous y venons avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Une grande exposition sur Velázquez a lieu en ce moment au Grand Palais à Paris. Franck Ferrand, vous nous parlez cet après-midi du célèbre peintre espagnol avec votre invité, le conférencier des musées nationaux Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Alors Serge, j'ai sous les yeux un portrait équestre parmi d'autres du roi Philippe IV, portrait bien sûr de profil, le roi chapeauté avec un énorme plumet d'autruche dont la poitrine pleine, couverte d'une armure et barrée d'une énorme écharpe de soie rose, porte un bâton de maréchal, la selle, l'équipage, tout ça est d'un brocart d'or phénoménal, une immense crinière sur ce cheval aux naseaux frémissants, grosse monture qui est en train de se lever, et quand je dis en train de se lever, on voit physiquement un travail cinétique sur les pieds. Alors, c'est peut-être du repentir de peintre, mais enfin, néanmoins, c'est un cheval qui, si je ne m'abuse, a 8 pattes au lieu de 4.
Oui, c'est la grande magie de la peinture de Velázquez. Velázquez travaillait, pour prendre un terme italien, à la prima. C'est-à-dire que Velázquez attaque directement ses toiles avec les pinceaux. On ne connaît pratiquement pas de dessin de Velázquez. On n'a aucun travail préparatoire de dessin quand on fait des radiographies des tableaux. C'est vraiment... Alors que le portrait dont vous parlez, Franck, c'est un portrait de cour. On imaginerait un travail extrêmement long, préparatoire, tout assez précis et détaillé. Et c'est absolument pas le cas. Et c'est sûrement une des grandes magies de Velázquez, c'est cette liberté technique, même pour les œuvres les plus officielles.
Je finis sur ce chapitre avant d'en venir quand même à tout le reste, mais puisque je disais un mot des fileuses tout à l'heure, on voit le rouet en action, et alors là, n'importe qui peut faire l'expérience, vous allez même sur internet, vous mettez les fileuses Velázquez, vous allez voir le portrait arriver, regardez le rouet. On a l'impression physique, mais même si vous regardez un bon moment et si vous êtes devant la toile, on a l'impression qu'il tourne.
Et absolument, c'est incroyable. Le mouvement est intégré. Et c'est là où, Dieu sait que les superlatifs, vous en avez beaucoup utilisé Franck, et j'en utiliserai aussi beaucoup, mais c'est aussi prodigieux de voir à quel point Velázquez annonce toutes les audaces à venir. Vous avez parlé de l'impressionnisme, mais dans cette notion du mouvement, on pourrait dire qu'il annonce toutes les recherches des futuristes italiens. Comment intégrer dans une œuvre d'art la notion du mouvement? Eh bien, Velázquez est un des premiers à donner ce sentiment de l'action qui se passe sous nos yeux.
Olivier nous demande sur Twitter dans quel courant il faut l'inscrire. Alors évidemment, un maître comme Velázquez ne s'inscrit pas dans un courant. Au pire, il le crée, mais bon.
Oui.
Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans l'esprit baroque.
Ah, complètement. Mais il fait partie de ce siècle d'or qui est celui de l'Espagne baroque, même si, vous l'avez très bien dit, il commence par cette peinture très sombre qui, elle, s'inscrit dans ce que l'on appelle à l'époque le ténébrisme espagnol, ces jeux de clair-obscur très, très, très approfondi, et également la notion de réalisme qui là correspond très nettement à la souche picaresque de l'art espagnol qu'on retrouverait aussi bien en littérature qu'au théâtre.
Vous dites ténébrisme espagnol pour bien le distinguer du caravagisme.
Oui,
hein, c'est ça.
C'est vraiment l'une des choses dont on se rend compte maintenant de façon très claire, c'est que si Caravage a compté pour l'évolution de Velázquez, Velázquez ne rencontre vraiment l'œuvre de Caravage qu'en Castille, c'est-à-dire quand il est installé à Madrid. Par contre, pour la période sévillane, on peut parler d'un art qui est un art dans le substrat de l'esprit espagnol. Cette démarche où la réalité, où la lumière, où les oppositions du clair-obscur sont très marquées, le caravagisme viendra compléter cette vision qui est une vision sévillane de jeunesse. Mais on considère maintenant que le vrai contact avec l'œuvre de Caravage ne commence qu'à Madrid.
Alors ce qui est assez étonnant, ce sont ces œuvres de jeunesse d'une âpreté, d'une rusticité et par ailleurs d'une densité qui n'ont rien à voir avec ce qui va suivre. C'est assez étonnant, ça.
Oui, c'est un art qui est un art profondément sculptural, d'ailleurs.
Voilà.
On sait, d'ailleurs, l'exposition du Grand Palais le montre, d'ailleurs.
Oui, très
bien.
On a
des liens avec certains sculpteurs de l'époque, comme Francesco Martínez Montañez, qui est l'une des références de Velázquez. Et par exemple, quand Velázquez peint des drapés, où il creuse les plis, où il y a des ombres extrêmement profondes, là, c'est un travail qui lui vient directement de la statuaire et de l'influence des sculpteurs contemporains. Donc il y a ce travail profondément ancré dans la réalité qui est une des bases du talent de Velázquez, et également une des choses étonnantes, c'est le côté terriblement prosaïque des premiers sujets.
Mais
qu'est-ce que l'on a ? Des repas de paysans où l'on a des personnages issus du peuple associés aux natures mortes, les fameuses bodegones.
Avec des œufs qui surnagent.
Complètement, et c'est une opposition entre un monde qui est un monde de l'Espagne la plus contemporaine au sens plébéien du terme, et à côté des des objets qui sont les objets de la vie de tous les jours. Ces natures mortes dont vous parliez, mais qui sont des natures mortes de cuisine. Surtout pas d'objets précieux. Ce sont des verres, ce sont des jarres, ce sont des marmites.
Alors quand même, à l'époque et dans cette jeunesse de Velázquez, on est à Séville, dans une ville intensément religieuse, et les sujets religieux ne vont pas manquer. Il y a Saint-Antoine d'abord. Fabuleuse toile qui se trouve au Grand Palais, il faut aller
sublime,
la voir.
Sublime, bien sûr, la production religieuse est terriblement importante, mais je dirais particulièrement au début de carrière. On a l'impression que par la suite, quand Velázquez devient peintre de cour, la peinture religieuse perd progressivement sa place sous le pinceau de Velázquez. On lui demande beaucoup moins de commandes. Les grandes commandes religieuses sont sévillanes ou du tout début de l'installation à Madrid. Par la suite, c'est le portraitiste qui s'impose.
Il y a quelque chose de cristallin dans le traitement de la nature et de tout l'arrière-fond notamment de ce paysage très espagnol, très italien, j'allais dire, somme toute, presque du Mantegna, comme ça, hein, non, sauf que la toile est immense. Et puis alors, aussi, une vision assez prosaïque de ce qu'il peut y avoir de plus sain. Je pense notamment à ce très, très, comment pourrait-on dire, à ce très corporel Christ à la colonne après la flagellation, où le Christ a les mains encore attachées à la colonne et où il a l'air très peu divin, si je puis dire.
Oui, il y a cette humanisation thèmes qui sont très très présents. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui est prodigieuse chez Velázquez et que personnellement je trouve absolument bouleversante, c'est à quel point il humanise les sujets religieux, il traite la mythologie avec une distanciation, alors là extrême, qui va même jusqu'à la satire, et quand il s'attaque au portrait, il donne derrière l'image d'un roi, derrière l'image d'une infante ou d'un enfant, la notion d'un être humain. Il y a cette notion de vérité.
Alors justement, comment le duc d'Olivares a-t-il pu avoir l'idée, à partir de ces toiles relativement rustiques, de confier des portraits royaux à Velázquez?
Alors ça vient aussi d'une chose que l'on connaît encore très bien à notre époque. C'est que le comte d'Olivares, qui est le comte duc, parce qu'il avait un double titre, il était comte d'Olivares et duc de Sanlúcar la Mayor, et la famille d'Olivares est une famille andalouse. Et en fait, ce qu'il souhaitait, c'est avoir à Madrid autour de lui des artistes originaires d'Andalousie. Velázquez correspond parfaitement. Donc je dirais qu'à la base, c'est une sorte de cooptation à travers
du copinage
absolument lié à une région qui est une région unitaire pour les deux personnages. Et ce qui va être magique, c'est que dès que Philippe IV rencontre Velázquez, là, c'est la peinture que Philippe IV attendait. Et il devient, mais alors, avec une rapidité hallucinante, le peintre officiel de l'art espagnol. D'ailleurs, ça lui vaudra des jalousies terribles. Les peintres installés à Madrid sont furieux de voir arriver ce jeune Sévillan qui prend très vite toute la place au sein de la cour espagnole.
Mais et pour cause, puisque tout ce qu'il fait est tout simplement fulgurant. Alors, à l'époque, le roi Philippe IV et son épouse ont un héritier sur lequel on mise beaucoup. C'est le petit infant Balthazar Carlos, que Velázquez va peindre. Alors là aussi, la toile est au Grand Palais. Extraordinaire, il le peint à côté d'un nain. Et le nain est à peine plus grand que l'enfant, sauf que les physionomies sont très différentes, les tenues, les postures, évidemment.
Je suis ravi que vous assistiez sur ce tableau, c'est une magie ce tableau, parce que si le prince royal est à côté du nain, il est quand même légèrement placé en domination. C'est-à-dire qu'il est déjà dans le rôle d'un souverain qui protégera son peuple. Et l'idée absolument géniale, c'est de mettre dans les deux mains du nain, d'un côté un hocher, ce qui est logique pour l'enfant qui est le prince Balthazar Carlos, et une pomme de l'autre côté.
Mais c'est le sceptre
et l'orbe, exactement. Oui. C'est-à-dire que c'est un tableau qui est complètement un tableau à revoir à travers une iconographie royale, mais une iconographie royale désacralisée, oserais-je dire.
Alors là, maintenant, Velázquez est arrivé à la cour, arrivé à tous les sens du terme. On sait qu'il avait un très grand intérêt pour les titres de noblesse. Quand il a été fait chevalier de Santiago, il a carrément rajouté sur les Ménines, il a rajouté la décoration sur son pourpoint, dit-on.
Oui, c'est ce que l'on dit. Alors, l'a-t-il rajouté? L'a-t-on rajouté? En tout cas, le tableau est antérieur au moment où Velázquez obtient cet ordre. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir l'ordre de Santiago sur le tableau des Ménines, mais on le retrouve par la suite. Donc, l'a-t-il rajouté? L'a-t-on rajouté? Le débat reste entier.
Alors, on va essayer, nous aussi, à notre tour, d'humaniser un peu ce divin Velázquez.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Le peintre Diego Velázquez est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez le conférencier des musées nationaux Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
C'était assez extraordinaire, Serge, de voir les soins extrêmes que ce conservateur prenait l'autre jour, cette dame, lorsqu'elle était en train de vérifier la qualité, enfin la bonne santé, si je puis dire, de la toile du portrait du pape Innocent X.
Ah, c'était magique, parce qu'en plus, avec le phénomène de l'éclairage sur chaque partie du tableau, on avait l'impression de voir en gros plan la technique picturale de Velázquez X fois agrandie, et ça, c'était absolument magique.
Comment pourrait-on la définir, cette technique ?
C'est là où il était tout à fait étonnant, c'est-à-dire que Velázquez, plus il avance en âge, plus il travaille par touches juxtaposées.
Voilà.
C'est là où on peut parler, moi je suis toujours un peu gêné quand on parle de pré-impressionnisme pour beaucoup de peintres, mais chez Velázquez, il y a sans aucun doute cette libération technique qui montre que de près, l'on voit les taches de couleur les unes à côté des autres, avec un certain recul, la forme se crée, ce qui est aussi absolument hallucinant, c'est de voir à quel point les détails ne sont jamais là. Les mains sont ébauchées rapidement, les cheveux, c'est une masse
seulement
absolument, simplement silhouettée. Tout ça, c'est la magie d'une technique qui, là, est totalement unique. Si on compare Velázquez aux grands peintres de l'époque, comme Zurbarán, Murillo et autres, il y a une différence absolue.
Oui, quelles sont ses influences ? Alors, il a été l'élève de Pacheco, il a beaucoup admiré Giorgione, Guerchin, etc.
Oui,
il a été à l'école de l'Italie,
alors,
quand même.
Moi, je dirais qu'il y a un nom qui est absolument essentiel, je pense, pour comprendre Velázquez, c'est Titien. Titien, c'est vraiment la magie pour lui totale de la grande peinture. Titien, comme par hasard, qui est le premier peintre qui, techniquement parlant, a libéré la peinture. Donc, Titien-Velázquez, il y a une filiation directe à travers les siècles. Bien sûr, les autres peintres vénitiens, comme Giorgione, comme Véronèse vont compter aussi. Mais Titien est peut-être le maître par excellence.
Alors, passer la petite irritation devant l'absence de quelques grands chefs-d'œuvre, mais c'est tout à fait naturel. Encore une fois, des musées comme le Prado peuvent pas. C'est comme si on demandait au Louvre de prêter la Joconde.
Bien
c'est
sûr.
Pas possible.
Et en plus, il y a parfois des règles strictes. Le Prado ne peut jamais prêter plus de 7 Velázquez à la fois. D'ailleurs, on en a 8 au Grand Palais, ce qui est déjà un joli cadeau.
Donc c'est tout à fait naturel. Et au-delà de ça, l'exposition est une permanente mise en regard, mise en perspective de la peinture de Velázquez avec ce qui se faisait avant, pendant et juste après lui, avec on pourrait presque dire avec tous ceux qui essaient mais n'y arrivent pas. Pardon, mais je trouve que la contiguïté est criante dans cette exposition.
Et c'est aussi ce que montre très bien l'exposition sur un plan, c'est que Velázquez, au fond, ne fait pas école. Ça, c'est une chose, je crois, que l'exposition montre admirablement. On a toujours pensé que Velázquez, c'est la référence espagnole. Bien, la référence, on la trouvera plus tard. Le grand suiveur de Velázquez, c'est beaucoup plus tard Goya. Goya qui reprendra des éléments de liberté de Velázquez. Mais est-ce que l'on peut dire que Velázquez a directement influencé beaucoup de peintres de la génération suivante ? Non. Velázquez est trop à part. Le seul, mais avec un degré moindre, c'est son gendre, celui qui épousera sa fille Francesca, qui est Juan Bautista Martinez del Mazo. L'exposition, d'ailleurs, lui consacre beaucoup de salles.
Beaucoup.
Peut-être un peu trop, soyons francs. Mais Martinez del Mazo est vraiment le seul vrai disciple de Velázquez. D'abord parce qu'il a été formé chez Velázquez, qu'il en devient le gendre, donc il est évidemment très proche de son beau-père, et qu'il maintient une certaine tradition picturale. En dehors de lui, Velázquez n'a pas d'école.
On sent chez Guillaume Kienz, qui est le commissaire de cette exposition, l'envie peut-être même d'aller un peu plus loin. Il ne l'a pas fait, mais on aurait pu avoir aussi des Picasso, des
Bien
Manet, et pourquoi pas des Bacon.
Mais Francis Bacon, vous parliez tout à l'heure du portrait du pape Innocent X. Francis Bacon a fait toute une déclinaison du portrait du pape d'une façon extraordinaire. Bacon est quand même le seul qui aura l'idée géniale d'associer dans un même tableau le portrait du pape Innocent X par Velázquez et le bœuf écorché de Rembrandt. Le pape entouré d'une vanité que le bœuf écorché de Rembrandt, c'est une magie totale. Et quelle idée de montrer aussi cette relecture de la peinture ancienne.
Alors il y a chez Bacon une fascination pour Innocent X, enfin pour ce portrait, entre parenthèses fabuleux, avec ses camailleux dont je parlais tout à l'heure. On s'est rendu compte en le voyant de très près qu'il y a des vernis qui ont un peu jauni. On adorerait voir la toile
D'ailleurs, la restauratrice, conservateur restaurateur qui travaillait sur le tableau nous disait qu'effectivement, il faudrait légèrement, même pas des vernis, juste alléger les vernis pour retrouver encore plus la qualité des couleurs du tableau.
L'éclat incroyable de ce tableau. Pour ce qui est de Picasso, alors lui c'était les Ménines.
Et ça c'est merveilleux parce que Picasso lui-même, espagnol bien sûr, aura besoin à partir d'une certaine période période de sa carrière, de rendre hommage aux grands maîtres qui ont compté pour lui. On connaît la déclinaison du Déjeuner sur l'herbe de Manet, des Femmes d'Alger de Delacroix, etc. Bien sûr, les Ménines de Velázquez sont une des références pour Picasso. En 1950, il fait toute une série de toiles qui sont pratiquement toutes d'ailleurs au musée Picasso de Barcelone et qui sont étonnantes parce qu'il peint le tableau de Velázquez dans la composition entière, mais il fait aussi des détails. On a entre autres le portrait de l'infante Marguerite représenté seul.
Alors bien sûr que les Fileuses ou les Ménines sont des toiles de la maturité, même de la grande maturité de Velázquez et qui sont au sommet de cette œuvre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même tout un couloir, si je puis employer cette expression, entre l'incroyable variété des thèmes des débuts, hein, le fourmillement de la jeunesse, et puis cette espèce de dernier éclat de la maturité. Entre les deux, il y a cette espèce de couloir de galerie de portraits d'infantes. Faut bien dire
oui,
ce qui est.
Tous les portraits royaux qui sont là. Avec ce qui manque peut-être un peu dans l'exposition, c'est qu'on aimerait voir aussi tous les portraits des autres membres de la cour, puisque Velázquez a peint la famille royale, mais il a également peint, et ça c'est tout à fait extraordinaire, les bouffons, les nains, et chose unique dans la peinture, les portraits de bouffons et de nains sont de la même taille que les portraits des princes ou des princesses de la cour espagnole. C'est-à-dire que les personnages secondaires de la cour ont droit au grand format et sont représentés pour eux-mêmes. On évoquait tout à l'heure le petit prince Balthazar Carlos avec son nain,
qui va mourir,
qui était le grand espoir de la monarchie espagnole. Il meurt avant, évidemment, d'avoir pu succéder à son père. Ça sera un grand drame pour la monarchie espagnole. Et à côté de lui, il y a donc ces portraits de nains, de bouffons, qui deviennent des figures à part entière de la cour espagnole. Ça, c'est totalement unique et étonnant. On ne trouve ça nulle part.
Avec une dimension décorative qui va faire beaucoup pour la relative relégation de Velázquez au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. On ne le redécouvre en gros qu'avec Manet.
Oui,
alors j'ai là, d'ailleurs, tenez, j'ai un ouvrage, c'est la réédition chez Paragora, hein, chez Pocket, de Diego Velázquez, Physionomie d'un génie d'Émile Michel, grand critique du XIXe, de la fin du XIXe siècle. Mais pendant très longtemps, Velázquez a été considéré, même si tout le monde admettait son génie, mais quand même un peu comme un peintre décoratif.
Oui, et puis comme un portraitiste de cour.
C'est
et l'idée du
les
portrait
deux ne
de
sont
cour,
pas très positifs, hein.
C'est quelque chose qui paraît très ennuyeux. Et c'est vrai
c'est
que Velázquez
erreur,
est
ça.
Un des rares à donner une originalité folle. D'abord, le portrait de cour n'est jamais ennuyeux, mais alors en plus chez Velázquez, il ne l'est vraiment jamais. Et c'est vrai que le 19e va beaucoup, beaucoup reconnaître le talent de Velázquez. Et ce sera cette espèce de veine hispanisante, d'ailleurs que la France a beaucoup connue. Édouard Manet, bien sûr, mais n'oublions pas aussi la galerie espagnole de Louis-Philippe. Louis-Philippe avait ses fameux chefs-d'œuvre.
Oui.
Et c'est là, d'ailleurs, le jeune Manet s'est nourri dans cette galerie espagnole. C'est son oncle maternel qui l'emmenait visiter la galerie espagnole de Louis-Philippe. Et c'est comme ça que le jeune Manet, qui n'avait à l'époque jamais mis les pieds en Espagne, il ira beaucoup plus tard, au moment de l'échec d'Olympia, eh bien, il s'est nourri de tous ces chefs-d'œuvre de l'art espagnol. Et la passion pour Velázquez, il l'a connue ici.
Moi, je ne peux jamais voir des tableaux de Velázquez sans penser à Corneille. Pour moi, ils sont de la même veine,
oui,
à bien
absolument.
Des égards. Le clair-obscur, le baroque, le classicisme et le caractère un peu officiel et royal de la fin de l'œuvre, tout ça, ce sont un peu les mêmes carrières d'une certaine manière. Et chez Velázquez, comme chez Corneille, il y a cette espèce de jeu avec la norme et avec, par exemple, lorsqu'il peint Balthazar Carlos en contre-plongée pour un tableau qui doit se trouver au-dessus d'une grande porte,
C'est extraordinaire. Ça, c'était pour le salon des royaumes,
c'est ça,
dans le palais du Pardo. L'idée était merveilleuse parce que sur un des petits côtés de la salle, sur les grands côtés, il y avait les tableaux d'histoire, dont les lances, la reddition de Breda, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et sur un des petits côtés, il y avait le portrait du roi de sa première épouse, Isabelle ou Élisabeth de Bourbon, et puis le prince, l'héritier, Balthazar Carlos. D'ailleurs, c'est un des problèmes puisque ce tableau, il faudrait l'imaginer à plus de 3 mètres par rapport à la hauteur qui est celle, évidemment, des autres tableaux. Donc, quand on regarde ce tableau de nos jours, on le voit un petit peu trop à hauteur d'œil et on a l'impression qu'il y a une erreur de perspective dans la création du corps du cheval. En fait, c'est un tableau qui devait nous dominer. On devait avoir l'illusion dans la salle que le cheval sautait par-dessus nous, au-delà de la porte, au-dessus de laquelle il était placé.
Balthazar Carlos, Philippe IV, la reine Marie-Anne, l'infante Marie-Thérèse, la petite infante Marguerite, qui va ensuite devenir impératrice d'Autriche.
Oui, et qui mourra très jeune aussi, elle a une vingtaine d'années quand elle disparaît.
Et qui bien sûr est l'héroïne des Ménines. Toutes ces figures ont été, on peut le dire, immortalisées par
Velázquez. Complètement, mais je pense que l'un des plus émouvants, c'est un tableau qui est d'ailleurs dans l'exposition, c'est un tableau que Vienne, le Kunsthistorisches Museum de Vienne nous a prêté, c'est le portrait du petit prince Philippe Prosper. Philippe Prosper qui est l'un des enfants du second mariage de Philippe IV et qui dès le départ a une santé évidemment totalement malingre, difficile. Et c'est un tableau bouleversant parce qu'on a ce petit garçon qui porte déjà la mort en lui et on voit toutes les superstitions de l'époque. On lui a
petit chien mourant.
Ah oui, et on lui a accroché à la taille une petite pomme d'ambre qui est censée enlever les infections. On lui a mis une clochette pour qu'on signale ses déplacements dans les salles du palais et que si jamais il tombe, on puisse le protéger. On lui a mis des amulettes pour éloigner le mauvais œil. C'est-à-dire qu'on a déjà conscience qu'il va bientôt mourir, ce qui sera le cas. Il meurt extrêmement jeune et il est comme une sorte de petit prince déjà moribond. Et en même temps, Velázquez, avec ce côté extraordinaire de vérité, le peint tel qu'il le voit, il ne l'idéalise pas. C'est l'image d'un petit prince qui porte la mort en lui-même.
Comme déjà une sorte de petit spectre. Merci beaucoup Serge Lega. L'exposition Velázquez se visite jusqu'au 13 juillet prochain dans les Galeries Nationales du Grand Palais. Quant au numéro hors série du Figaro, il est intitulé Velázquez, le grand d'Espagne, avec en couverture cette petite infante Marguerite dont je parlais, avec sa lippe Habsbourg, avec son regard étonné et avec surtout le je ne sais quoi de plus que lui a conféré le maître.
Au cœur de l'histoire continue sur Europe 1 et Franck Ferrand vous répondrait à la question d'Elisabeth sur l'origine des expressions comme en 40 et droit dans ses bottes.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question d'Elisabeth aujourd'hui via la page Facebook de l'émission. Elle vous demande, Franck Ferrand, d'où viennent les expressions que nous connaissons bien comme en 40 et droit dans ses bottes?
Alors, ce sont des questions toutes simples ça, Elisabeth. On va essayer d'y répondre simplement. Repartir comme en 40, d'abord, la vraie expression, c'est repartir comme en 14. C'est ça l'expression dans la langue française, l'expression reconnue, c'est repartir comme en 14. Et pourquoi en 14? Parce que c'est évidemment c'est une allusion directe, non pas à l'occupation prussienne de 1814, mais à la guerre mondiale, à la première guerre. Lorsqu'on est parti, tout le monde est parti se battre, on pensait que la guerre serait courte, n'est-ce pas? Tout le monde est parti la fleur au fusil, comme on dit. Alors tout ça, ce sont des légendes, et les historiens actuellement mettent beaucoup d'énergie, et notamment dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, a démontré qu'en fait, il y avait beaucoup moins de naïveté qu'on ne le pense chez les soldats de 1914 et que beaucoup d'entre eux partaient plutôt la mort dans l'âme et avec le sentiment que ça allait mal se passer et que ça allait durer. Et c'est un peu une légende qu'on a réécrite après coup, cette histoire de l'enthousiasme de 1914. En tout cas, on a longtemps, notamment dans l'entre-deux-guerres, on disait repartir comme en 14. Et puis, tout s'actualise dans la vie. Et quand est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, alors celle-là, on ne l'attendait pas du tout, puisque la première devait être la Der des Der. Tous les anciens combattants étaient persuadés que jamais plus on ne revivrait cela. Et voilà que ça recommence. Et là, alors, effectivement, on s'est mis, dans les années 50, 60, on s'est mis à employer l'expression « repartir comme en 40 » avec exactement le même sens. À ne pas confondre avec l'an 40 dont on se moque comme de sa première chemise, parce que ça fait référence à l'an 40 de notre ère. Bon. Quant à se tenir droit dans ses bottes, alors là, ça fait directement allusion au grand portrait équestre de Velázquez, n'est-ce pas? Quand on est quasiment debout, parce qu'autrefois les étriers se portaient très bas, les cavaliers devaient se porter droit sur leur monture. Vous savez, il faut être à la fois droit et souple quand on monte. Ils devaient être droit dans leurs bottes, comme l'expression l'indique, et se tenir droit dans ses bottes, ça veut dire avoir une bonne assise, être sûr de soi, n'avoir en quelque sorte aucune culpabilité gênante et rien à se reprocher. On est droit dans ses bottes. Ça pourrait être, cette expression, l'antonyme d'une autre expression flamande, celle-là, qui dit avoir une petite pièce dans ses bottes. Ça n'a pas été traduit en français, ça, mais avoir des pièces dans ses bottes, ça fait marcher un peu de travers, et c'est la démarche qu'on avait quand on était ivre ou pas très sûr de soi. Eh bien, être droit dans ses bottes, c'est tout simplement le contraire. Bonjour Marion Ruggieri.
Franck, aujourd'hui on parle théâtre. C'est ce soir la 27e cérémonie des Molières. On va se demander si la Comédie Française est la nouvelle fabrique de stars, si le théâtre est encore cet endroit où l'on peut s'ennuyer ou si au contraire c'est en train de devenir sexy. C'est dans un instant avec le patron de la Comédie Française en personne, Éric Ruff, un jeune sociétaire Stéphane Varupen et Nicolas Bedos qui anime ce soir la soirée des Molières.
Eh bien, je suis heureux de les saluer tous les trois. On adore le théâtre ici, vous le savez Marion. Merci beaucoup. Et à demain, chère Ombline.
À demain, Franck.